question d'actualité de ce jeudi 11 avril, Julien Corona au micro, toujours en remplacement de Jean-Philippe Trottier, Daniel Fortin, comme d'habitude, à la réalisation derrière les tablettes et les manettes. Aujourd'hui, notre invité, c'est David Santarossa. Bonjour, David.
Julien.
Avec toi, aujourd'hui, on va parler d'appropriation culturelle. C'est un sujet qui est souvent d'actualité, mais on va souvent dire que les Québécois ils s'approprient culturellement diverses cultures et tout ça. Mais il n'y a pas assez de critiques quand c'est d'autres gens qui s'approprient la culture québécoise. On va dire le Canada se l'a approprié beaucoup. Et on a fait même sa propre identité nationale, volant un peu certains symboles au Québec et à la Nouvelle-France. Mais là, c'est un sujet qui est assez récent. C'est Valérie Plante et un tartan écossais. Reviens-nous un peu sur ce sujet, David.
Oui, quelques jours, hein, Valérie Plante, donc la mairesse de Montréal, si on a besoin de le répéter, donc quelqu'un d'assez important, je pense, qui écrit dans un tweet quelque chose de très subtil, mais qui n'a pas glissé sous le nez de beaucoup de... Ouais. De lecteur, hein, qu'elle dit, là, j'ouvre les guillemets, l'héritage de la métropole se manifeste dans ce tartan écossais qui représente les peuples fondateurs de Montréal. Donc, ouais. Hein, cette utilisation du pluriel, les peuples fondateurs de Montréal.
C'est la nouvelle histoire, un peu, qu'on voit depuis de nombreuses années. Ça avait commencé, on va dire, il y a une dizaine d'années, sous les diverses administrations avec Gérald Tremblay. Ça s'est accéléré encore plus avec Denis Coderre. Et encore plus... sur le plus que de Denis Coderre avec Valérie Plante, c'est ce fait qu'on tente un peu d'invisibiliser le fait que Montréal est une ville qui a été fondée par les Français, qu'il n'y a qu'un seul peuple fondateur à Montréal, ce sont les Français.
Oui, exactement. Et évidemment, il faut souligner qu'il y a plusieurs autres peuples qui ont apporté leur contribution à l'histoire de Montréal. Mmh. Les Écossais en font partie, les Italiens en font partie, les Irlandais. Donc, on pourrait multiplier la liste. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il en demeure pas moins que, justement, le peuple fondateur, ce sont les Français. C'est pas Chemebdé de Maisonneuve en 1642. Donc oui, ça, c'est très, très important. Et ça, oui, tantôt, on parlait d'appropriation culturelle. On se rappellera, il y a quelques années, Robert Lepage, on l'avait beaucoup accusé, n'est-ce pas?
Oui.
Exactement. Et Robert Lepage, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, écoutez, il avait... Dans son équipe, c'était essentiellement des chansons. Mm. Il y avait des gens de couleur avec la peau noire, la peau blanche, qui chantaient des chants d'esclaves. Mm. Et donc, il en faisait vraiment... Il présentait ça comme véritablement quelque chose de positif, qu'il y avait une espèce de mélange des cultures, qu'il y avait à la fois des blancs et des noirs, comme je le dis. Mm. Donc, à mon sens, il ne faisait pas de l'appropriation culturelle, c'est-à-dire qu'il ne disait pas « Ah, j'ai inventé ces chants-là ».
C'est une marque de respect. Et le problème, c'est que l'appropriation culturelle, on la voit d'un autre côté avec de plus en plus de gens, le Canada, surtout en provenance du Canada anglais, qui tentent de s'approprier de l'histoire et des réussites qui sont de la Nouvelle-France ou de l'époque de la province du Québec, servant un peu le nouveau mythe du Canada multiculturel et que ces différents peuples ont participé à la fondation alors qu'en fait on voit que c'est à la base ce serait un seul peuple.
Voilà, c'est ça. Et là, évidemment, il y a eu une forte réaction sur les réseaux sociaux, sur Twitter, ou X, comme on l'appelle maintenant. Et puis, parce que ce n'est pas banal. C'est vraiment une conception de l'histoire et justement une conception aussi du vivre ensemble, de l'intégration, de l'inclusion. Donc, le simple fait d'utiliser le pluriel dans cette phrase-là, finalement, nourrit toute une conception du vivre ensemble. Et Valérie Plante, elle adore parler de vivre ensemble, d'inclusion. Eh bien, d'accord, parlons-en de votre vision.
Oui, allô?
Sens ou bien non, ils doivent véritablement avoir une conception du vivre ensemble. Mmh. Et manifestement, les Français, les francophones, c'est une partie de cette culture-là. C'est pas une partie fondatrice, justement. Et ça évoque aussi, il y a quelques mois maintenant, on s'en rappellera, Valérie Plante avait annoncé le quartier de la francophonie.
C'est ça, oui. Cette volonté au lieu de dire que... on le voit aussi du côté Canada anglais, du côté du fédéral, où on est passé des deux peuples fondateurs au mythe du multiculturalisme et que ce sont deux peuples parmi tant d'autres dans un Canada post-national. On invisibilise le peuple fondateur de Montréal, on le rend peuple parmi tant d'autres afin de rentrer dans ce nouveau dogme. Mais là, on passe plus dans la... Ce n'est plus vraiment de l'appropriation culturelle quand on analyse ça. Est-ce que ça serait de la désinformation, en fait?
Moi, je pense que oui. Quand on parle de désinformation, hein, c'est le c'est le désir, vraiment de manière délibérée, de donner une fausse information. Je veux dire, Valérie Plante sait très bien qui a fondé Montréal. Mmh. Et là, elle ment, à mon sens. Elle mmh. dit une fausse... Le paradoxe un peu de la chose, c'est-à-dire que dans les dernières années, on a beaucoup parlé de les fameuses fake news, de désinformation, de fausses nouvelles, et il y a toute une série, toute une de décrypteurs qui ont commencé à émerger ouais. dans les grands médias, n'est-ce pas?
Mais font-ils et leur travail sur ça?
Font-ils leur travail sur ça? Pas vraiment. On se rappellera aussi, depuis quelques années, Valérie Plante parle de Montréal qui est sur une terre Mohawk non cédée.
Alors qu'on est un mensonge historique.
Qui est un mensonge historique. Et pourquoi les décrypteurs ne se servent pas de ça pour justement attaquer, pour attaquer, mais en fait pour rectifier l'information que Valérie Plante propage. Et pourtant, les décrypteurs, eux autres, s'acharnent en fait sur des YouTubers, sur des TikTokers un peu lambda, je veux dire, qui ont leur public, certes, mais que ce sont pas des personnes qui représentent une institution comme la ville de Montréal, justement.
Est-ce qu'on peut faire écho, je voulais prendre avec, par exemple, Mathieu Bocoté, il y a quelques années, avait sorti un peu un livre sur le multiculturalisme comme nouvelle religion. Et quand on voit les différents, ce mythe diversitaire qui devient le dogme absolu à suivre, est-ce que c'est parce que ces décrypteurs ou ces faiseurs d'opinion, tels qu'on le voit dans certaines émissions de débat et tout, sont tous de plus en plus attachés à ce dogme, au contraire d'une majorité de la population, et qu'ils sont là un peu pour, au-delà de la désinformation, faire une sorte de propagande qui est contraire à l'histoire, parce que cette propagande doit servir le nouveau dogme, et à la fin, on espère que le mensonge, à force d'être répété, devienne une nouvelle vérité.
Je ne veux pas trop faire de procès d'intention à l'égard de ces décrypteurs, mais manifestement, en ne décryptant pas justement ouais. Ces mensonges, ben qui ne dit mot consent en quelque ouais. sorte. Lorsque ton travail c'est de décrypter et qu'il y a un aussi gros mensonge, ben je veux dire tu y consens d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et puis et je pense qu'on a là le parce qu'évidemment tout ça c'est ce drap de politiquement correct. Hein? Ah, il y a plusieurs peuple fondateur, et d'ailleurs elle ne les nomme pas non plus, hein. Elle oui. dit seulement qu'il y a plusieurs peuples fondateurs, parce que du moment que tu commences à les nommer, ben, manifestement ben, on a un quartier chinois aussi à Montréal, est-ce qu'il faut inclure aussi justement les Italiens, ouais. Les Vietnamiens, donc est-ce que les Haïtiens, est-ce que vous autres aussi font partie des peuples fondateurs de Montréal, si on pousse la logique jusqu'au bout, on pourrait le dire, et je pense que c'est là le drame en quelque sorte des Québécois francophones, c'est-à-dire qu'ils forment clairement une minorité dans le Canada, à l'échelle continentale aussi, évidemment, mais elle est traitée comme une majorité, justement. Elle n'aura pas les privilèges que le politiquement correct va lui octroyer en disant, vous savez quoi, ici, il y a une culture à préserver, une culture à protéger, donc on va donner une forme de privilège à la culture francophone. On ne la sent pas dans les médias à l'heure actuelle.
Est-ce que aussi, sur cette question de la majorité, si tu ne la sens pas dans les médias, comment rétablir les faits, en fait? Comment arriver à rétablir les faits? On a les réseaux sociaux et tout, mais on sait que les médias traditionnels gardent encore une très grande influence. Comment utiliser, comment espérer que ces médias traditionnels puissent participer au rétablissement des faits?
Je pense que c'est difficile de ne pas être cynique dans ces circonstances-là, et je pense que c'est ce qui nourrit l'émergence de médias alternatifs. Comme on a beaucoup parlé justement des conspirationnistes en lien avec la COVID, n'est-ce pas? Je me tiens plutôt loin de ces marges idéologiques.
Certains balados qui grossissent, qui arrivent parce qu'ils sont plus indépendants, arrivent à avoir cette voix qui permet peut-être soit de rétablir les faits ou d'offrir une perspective qui est moins proche de certains dogmes. Recréer une variété qui est telle qu'elle pouvait exister il y a 20 ou 30 ans dans les médias traditionnels.
Voilà, je pense que c'est vraiment par là que ça va passer, pour le meilleur et pour le pire, hein, justement. Ouais. C'est la beauté d'Internet, c'est-à-dire c'est une très, très grande liberté. Ben, la grande liberté peut permettre justement de rétablir les faits. Justement, tu sais, si on regarde sur Twitter, sous le tweet de Valérie Plante, ben, je veux dire, ce sont que des commentaires critiques de son tweet qui rétablit les faits. Donc ça, c'est c'est quelque chose de très, très, très positif par rapport à Internet, justement. Mais en même temps, on le sait, on a vu une multiplication de propos quand même. J'hésite parfois à utiliser le terme haineux, mais du moins discriminatoire sur les réseaux sociaux.
Tu me permettras de faire aussi un lien avec sur cette genre de facification de l'histoire. Hier soir, la commission scolaire English Montréal a annoncé son intention de porter appel du jugement en cour d'appel contre la loi 21. Donc, ils vont aller en Cour suprême. Dans le cadre de la conférence qu'il a donnée sur Zoom de Marc Pérez, qui est le patron de la commission scolaire English Montréal, Monsieur Pérez a expliqué que, au-delà de toutes ces choses, il parlait plein de choses, il est revenu sur la question de ces peuples fondateurs à Montréal et que la ville de Montréal n'est pas encore assez inclusive dans sa reconnaissance des peuples, tu vois, c'est le lien où j'en viens, et qu'il faudrait même inclure dans le drapeau de Montréal des signes pour les peuples africains, pour les peuples chinois et tout ça. Donc on en est à un mut. Cette désinformation doit-elle ou peut-elle être liée aussi avec ce dogme du multiculturalisme? On en revient toujours à cette question.
Oui, totalement. Je pense que poser la question, c'est y répondre. Ouais. Et puis, on voit aussi que c'est un cul-de-sac, cette idée-là. Parce que souvent, justement, on a opposé le drapeau du Québec, n'est-ce pas? La fleur de lys, ouais. Le bleu et le blanc, la croix, au drapeau, justement, montréalais, qui serait beaucoup plus inclusif.
Ouais.
Mais justement, poussons la logique plus loin, est-ce qu'il l'est vraiment? Est-ce qu'il inclut tout le monde?
C'est ça, et donc.
Et la réponse, c'est non. Alors que le drapeau québécois, à mon sens, inclut tout le monde, parce qu'un immigrant, du moment qu'il arrive ici, ou même s'il est déjeuné ici, est appelé à s'intégrer à, justement, une culture commune. Et d'ailleurs,
Ces gens, ils sont contre la culture commune. Ces gens veulent juste une terre d'accueil pour les immigrants, mais pas de culture commune, parce qu'ils considéraient qu'une culture commune serait une tyrannie de la majorité.
En effet. Donc là, il y a une concurrence identitaire, en quelque sorte, qui existe. Donc, entre le Québec francophone et le Canada, qui promet justement de dire, ben, écoutez, nous, on ne vous impose aucune règle, faites ce que vous voulez. Il n'y a même pas de règles linguistiques, mais en même temps, eux autres, ils ont le poids anglo-saxon, ouais. Le poids démographique de leur côté, évidemment, on le sait. Donc, c'est finalement les francophones, les Québécois francophones qui passent pour les méchants de l'histoire, alors que finalement, ce qu'ils demandent est somme toute assez raisonnable et mettent bien souvent de l'eau dans leur...
Au-delà de toutes ces questions de mythes, de diversité...
édulcorée de la Charte des valeurs de 2013. Donc oui, les Québécois francophones mettent de l'eau dans leur vin, mais c'est jamais assez. Finalement, le vin doit toujours être dilué davantage.
Sur la dernière question en fait, que j'ai à te poser sur ce sujet, c'est qu'on voit ces falsifications, on voit ces diversifications, on voit les réactions des citoyens sur les réseaux sociaux, on voit la réaction de certains commentateurs. Par exemple, Mathieu Bocoté, la semaine dernière, en début de semaine, avait pu sortir une chronique sur cette falsification de l'histoire par Valérie Plante. Mais que disent les politiciens? Parce que les politiciens, à part jacter de temps en temps, on a Jean-François Roberge qui va potentiellement pouvoir dire « non, c'est faux » et tout ça, mais à part quelques voix dans certains partis, on n'entend pas la vindicte qui se lève du côté de nos décideurs pour dire « assez, c'est assez » sur ces questions-là.
Le discours bien vu retour.
Oui, ça a coupé. Est-ce que tu pourrais reprendre? Oui, ça a coupé. Est-ce que tu pourrais reprendre la question?
Ouais.
Tu peux y aller.
Donc, oui, j'ai l'impression que le politiquement correct va devoir retourner en quelque sorte du côté du Québec tôt ou tard. C'est-à-dire que manifestement, on se rend compte que rétablir le pouvoir, en fait, pour justement permettre au Québec de vivre pleinement de manière épanouie, de vivre dans une société française. Donc, je pense que oui, on est vraiment dans de beaux draps. Et puis, je vois difficilement comment, si la vérité n'a plus sa place, je vois difficilement comment on peut poursuivre dans cette veine-là, dans un Québec français, en fait, là.
David Santarossa, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. C'est toujours un plaisir de pouvoir t'entendre. Ça faisait longtemps, plus qu'on n'avait pas parlé ensemble à la radio.
Tout à fait.
Et passe une très belle fin de semaine et à la semaine prochaine.
Pareillement, à la semaine prochaine.
Merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Questions d'actualité. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Passez une très belle journée aux antennes de Radio VM.